Tristan peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.
Bonjour à tous. Est-ce que les nouvelles générations se souviennent d'Albert Schweitzer, ce médecin, théologien protestant fervent qui a fondé un hôpital en Afrique au début du XXe siècle et qui a entraîné des vocations? Alors, parmi ces vocations, Joël Nicolas, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Alors, bonjour Joël. Alors, c'est Joël Nicolas Randegère.
Très bien. Oui, bonjour, bonjour. Oui.
Voilà. Alors, votre premier point commun avec Albert, c'est votre héritage protestant, en dehors d'être médecin, comme on va le voir plus tard. Donc.
Tout à fait. Je suis née dans une famille protestante en Tunisie en 1942, donc en pleine Deuxième Guerre mondiale. Et j'ai reçu une éducation biblique tout à fait approfondie grâce à mes monitrices d'école biblique au temple de Tunis. J'ai surtout été formée dans le scoutisme. Oui. Parce que aussi bien ma branche maternelle que ma branche paternelle avaient adhéré à ce mouvement dès la génération de mes grands-parents.
Oui, parce que ça remonte à un certain temps, la famille, le protestantisme dans votre famille.
Oui, alors du côté paternel, il y a des ancêtres pasteurs, il y en a même un qui est galérien, qui a...
C'était galérien
sur je ne sais plus quel bateau de Louis XIV. Du côté maternel, c'est plutôt un protestantisme récent, puisque c'est une famille venant de Bretagne, enfin entre Nantes et la Bretagne, et qui était très très catholique. Et c'est mon grand-père qui s'est converti au protestantisme après avoir été miraculeusement sauvé pendant la Première Guerre mondiale. Où il était.
C'est assez curieux ça, parce que compliqué. Je reçois beaucoup de gens qui ont été convertis au protestantisme, qui ne le sont pas d'origine, moi d'ailleurs. À l'époque dont vous parlez, ça devait être quand même assez surprenant, un catholique qui se convertit au protestantisme sans histoire de mariage ou de choses comme ça, simplement conviction.
Oui, par conviction. Il avait fait un séjour en Angleterre chez un pasteur méthodiste, je crois, oui. quand il était jeune. Mais sa conversion a entraîné une rupture avec sa propre famille et avec sa très jeune femme, qui était, elle, institutrice plutôt laïque, enfin dans le courant laïque de l'époque. Ils sont partis en Algérie, fonder leur famille là-bas. Et puis ensuite, ils ont... pas été très 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 satisfait de l'ambiance qu'il y avait en Algérie et donc ils sont partis en Tunisie. Donc c'était une implantation assez assez lointaine la Tunisie, oui, 1920.
Oui. Et donc il s'est converti à la suite d'une forme de miracle. Oui. C'est curieux parce que les miracles on voit plutôt du côté catholique.
Non, c'est-à-dire qu'il avait oublié son masque à gaz sur sa figure, il s'est endormi et la nuit il y a eu avec toute sa compagnie une attaque de gaz. Et lui seul a été sauvé par rapport à l'ensemble qui, eux, avaient dormi selon les consignes sans garder leur masque. Voilà. Et ça a dû effectivement provoquer un choc, le choc du survivant et donc des questions existentielles très fortes. Et il est revenu complètement changé, comme beaucoup, beaucoup d'hommes de cette époque de la guerre, mais avec une énergie et un souci de solidarité, de justice, et ça qui ne l'a jamais quitté.
D'accord. Et alors, vous parlez donc du scoutisme. C'est dans votre famille. Et puis, ça a continué, puisque c'est là aussi que vous rencontrez votre mari. Donc,
J'ai rencontré mon mari. Moi, j'étais cheftaine de louveteau. J'avais fait la progression entre petites ailes, éclaireuse, etc. Et puis, j'étais devenue cheftaine. Et je partais de Rouen, où j'avais commencé mes études de médecine. Et je suis arrivée à Paris. Et là, j'ai plus voulu avoir une grosse responsabilité. Donc, je suis allée voir au secrétariat national si je pouvais rendre des services. Et c'est là où je suis tombée sur mon mari, mon futur mari,
oui.
Puisqu'il était lui-même, à ce moment-là, responsable de la branche éclaireur au niveau national. Donc.
D'accord. Donc... Et est-ce que ça a joué, parce que vous commencez des études de médecine, est-ce que le scoutisme et la médecine, il y avait quelque chose de commun? Est-ce que c'est le souci de l'autre? Enfin, comment ça se... Ou alors, est-ce que ça n'a rien à voir, tout simplement?
Oui, le souci de l'autre. Et puis, je dirais, une certaine persévérance, une certaine indépendance aussi d'esprit. Que j'avais été sensibilisée ouais. par mon passage aux éclaireuses en particulier. On avait fait des explos, des choses que les jeunes filles de cette époque ne faisaient absolument pas. Et j'avais aussi dans ma famille des femmes très battantes
ouais.
Qui travaillaient déjà comme professeures, comme... directrice de l'école normale d'instituteurs, par exemple, pour ma grand-mère. Enfin, c'était des modèles qui me poussaient à choisir moi-même mon métier. Et je me sentais, par cette éducation très égalitaire entre hommes et femmes, tout à fait capable d'être médecin.
Oui, oui. Et alors, je signale aux auditeurs que le scoutisme est effectivement quelque chose de... même de nos jours, d'assez extraordinaire, parce que les enfants arrivent à se débrouiller, on les apprend à être autonomes et en même temps en collectivité. Alors, il ne faut pas hésiter à contacter des mouvements d'éclaireurs, surtout les éclaireurs unionistes qui sont liés à la fédération, enfin à l'EPUDF. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'endoctrinement religieux, mais il y a un côté spirituel et puis... à côté aussi de respect de la nature, de...
voilà. Tout à fait, j'ai montré dans un livre qui s'appelle « Parle-nous des enfants » combien le scoutisme répondait à la plupart des besoins essentiels des enfants.
Oui, les alors besoins... là vous parlez en tant que pédiatre.
Ah oui, tout à fait. Mais en même temps, les besoins physiques, les besoins psychologiques, sociaux, mais également les besoins spirituels, parce que ça donne sens réellement à la vie de ces enfants, même si ce n'est pas dirigé complètement vers une religion particulière, il y a cette volonté de trouver sens à sa vie, de se poser les questions essentielles et d'essayer de les résoudre en commun avec dans une ambiance qui est une ambiance de jeu, mais en même temps de responsabilité.
Oui, tout à fait. Moi, voilà. J'ai mes enfants qui sont passés par là et effectivement, ils ont appris des tas de choses, notamment à laver les chaussettes de tout le groupe ou faire la vaisselle, ou préparer...
Oui, mais ce n'est pas que des corvées, faisait aussi des choses magnifiques, enthousiasmantes.
Ils gardaient un excellent souvenir du lavage des chaussettes.
Peut-être.
Parce que ça se faisait dans la bonne humeur, et puis je suppose qu'ils devaient s'envoyer les chaussettes mouillées un peu à la figure.
Voilà.
Enfin bon, effectivement. Alors, on va revenir à nos moutons, c'est-à-dire à vous-même. Alors, vous faites des études de médecine, et puis vous choisissez la pédiatrie, et vous partez en Afrique, tout de suite l'Afrique.
Pratiquement tout de suite, parce que mon mari, à ce moment-là, quittait les éclaireurs unionistes et il a été recruté par son homologue des Scouts de France à faire une action humanitaire et aussi éducative très, très intéressante à l'Institut de technologie agricole de Mostaganem en Algérie.
Ouais.
Donc, nous sommes partis avec nos deux enfants et toute une bande de coopérants qui avaient des idées géniales. Et ils ont créé cet institut avec des méthodes tout à fait novatrices, réellement. Nous sommes restés 5 ans là-bas. Et j'ai pu, moi, travailler comme médecin généraliste d'abord, et puis ensuite comme responsable des centres de protection maternelle et infantile de tout le département de Mostaganem. Donc ça a été une... Et puis j'ai eu sur place aussi mes deux derniers enfants, mes deux filles, alors que j'avais eu deux garçons avant de partir. Voilà.
Et donc, et vous vous spécialisez dans la recherche aussi. Vous travaillez sur le sida, sur le...
Alors ça a été par la suite. Nous sommes allés ensuite, après l'Algérie, mon mari a eu un poste en Côte d'Ivoire. Je l'ai bien entendu suivi et nous sommes restés près d'une dizaine d'années en Côte d'Ivoire. D'abord à Gagnoa, dans une petite ville de la forêt tropicale, et ensuite à Abidjan. Et là, j'ai fait la connaissance avec les pathologies tropicales, le paludisme, avec la malnutrition. Je suis encore très, très branchée sur ce thème de la malnutrition infantile. Et dans les toutes dernières années de mon séjour en Côte d'Ivoire, j'ai découvert le sida infantile. Et c'est au Congo, le poste suivant, j'ai vraiment connu tout à fait l'horreur à ce sujet, parce qu'il n'y avait aucune possibilité de faire des tests pour transfuser les enfants, par exemple. Donc, on savait que l'épidémie était là et qu'on pouvait transmettre le sida par les transfusions. Et il n'y avait donc aucun test de dépistage. Il n'y avait pas de traitement, bien entendu, à cette époque.
Oui.
La transmission mère-enfant, les méthodes n'étaient pas encore connues. Et donc, au bout de 4 ans, mon métier est devenu une trop lourde charge dans les conditions où je l'exerçais, parce que là, j'avais eu un contrat de coopération, ce que je n'en avais pas avant, mais aucun moyen pour travailler.
Oui, oui.
Donc ça a été... J'ai d'ailleurs publié un article dans Réforme à ce sujet, en réponse à un article de Jacques Ellul qui m'avait scandalisé sur son idée de l'origine du virus, alors que je voyais ses enfants mourir dans des conditions affreuses. Donc, j'ai décidé de rentrer avec mes enfants. Mon mari m'a suivi peu de temps après. Et c'est là où j'étais accueillie dans une équipe à l'hôpital Robert Debré, une équipe parisienne, où j'ai commencé les véritables recherches.
D'accord, parce que en Afrique, en fait, quand vous en occupiez, c'était les soins palliatifs, en fait.
Même pas. Qu'on n'avait même pas de morphine ni d'antidouleur. On connaissait pas les soins palliatifs.
Oui.
C'était assister tout simplement à leur dégradation et à leur décès. Donc, c'était vraiment tout à fait insupportable. D'autant qu'à l'époque, il y avait aussi une épidémie de paludisme résistant attaquait beaucoup, beaucoup les enfants de moins de 2 ans, et la malnutrition continuait dans des pays où pourtant il y avait une disponibilité alimentaire tout à fait acceptable, mais c'était une question d'éducation des mamans qui ne savaient pas vraiment comment sevrer leurs enfants, et les méthodes employées entraînaient ce qu'on appelle le kwashiorkor, donc cette maladie de l'enfant mal sevré, disons.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Heureusement, je suppose qu'il y avait quand même ce côté de l'Église. Vous étiez dans des églises en Afrique et vous participiez à la vie des églises.
Oui, alors à Abidjan, il y avait des églises protestantes tout à fait... avec des pasteurs protestants, comme par exemple le pasteur Pierre Cadier, qui a été le pasteur de famille pendant toutes ces années, et avec qui j'avais la responsabilité d'un groupe d'enfants de catéchisme.
Oui.
Voilà, donc là, je me formais en même temps à la théologie, parce que je trouvais que la médecine et la théologie, ça allait bien ensemble, étant donné que Jésus avait été un médecin extraordinaire et que la vocation médicale, elle m'était aussi venue de l'enseignement du Christ et de ce que je savais de sa vie. Donc oui, j'ai été insérée dans ces paroisses, la paroisse du Plateau à Abidjan, et il y avait une très grosse communauté française ou européenne, avec des contacts très faciles entre les Ivoiriens et les Français dans ces paroisses-là.
Ouais. La forme du culte, elle était occidentale ou africaine?
À Abidjan, oui. À Abidjan, à la paroisse du Plateau, avec le pasteur Cadier, il n'y avait aucun souci. On était dans notre environnement. Il y avait aussi l'hôpital protestant de Dabou, qui a été un des lieux où j'ai appris énormément de choses. Bref, Au Congo, c'était très différent. Au Congo, l'église évangélique congolaise venait d'une mission suédoise, d'une mission baptiste suédoise,
oui.
Et puis s'était émancipée. Et il y avait ce qu'on appelle un peu un syncrétisme entre les méthodes et la culture animiste et la culture protestante avec... les fusions de l'esprit, les trans, le parler en langue, etc.
Pendant le culte,
Oui, oui, ça pouvait survenir à n'importe quel moment. Il y avait les transcripteurs qui prenaient sous l'effet du Saint-Esprit ce que disait la personne en langue.
Oui.
Bon, moi, j'étais complètement étrangère à ça. Bon, j'ai observé en espèce d'ethnologue ou d'anthropologue pour comprendre aussi les familles que je recevais à l'hôpital, de voir d'où elles venaient et comment... Enfin, quelles étaient leur façon de se représenter la vie, la mort, la maladie, la santé, etc. C'était ça j'ai toujours essayé de le faire, de l'Algérie jusqu'au Congo. Et là, c'était une nouvelle découverte. Je suis même allée dans des lieux animistes où on faisait des exorcismes et du fétichisme, etc., pour comprendre ce que...
Et l'Évangile, comment était...
Alors, l'Évangile se transmettait, mais c'était un... Je trouvais que c'était un évangile pas très protestant, qui faisait appel au mérite et il fallait être dans une espèce de moralisme et d'un contrôle des différents membres de l'Église les uns sur les autres qui me pesait beaucoup. Et alors, là, j'ai pris une responsabilité de formatrice de moniteur d'école du dimanche.
Oui.
Pour justement leur faire lire la Bible un petit peu autrement et leur montrer la profondeur de l'amour de Dieu qui pardonne et cette idée de la grâce qui ne va pas chercher toujours le péché là où on croit qu'il est et puis en fait, il est ailleurs. Bref. Lire les paraboles avec eux ou l'évangile, et ben ça a été pour moi aussi une très très bonne expérience.
Et ça a débordé dans l'église.
Alors j'en sais rien parce que
c'est trop difficile de savoir.
C'est très difficile de savoir. Okay. Mais voilà, bon, j'ai gagné et mes enfants aussi qui étaient scolarisés là, qui allaient à l'école biblique avec moi, etc. On gagnait une ouverture d'esprit extraordinaire. On ne pouvait pas rester dans son petit précaré, c'était pas possible. Il fallait entendre, écouter, accepter, même si c'était pas notre façon de prier
bien
et
sûr,
de chanter.
Bien sûr, bien sûr.
Par contre, les chorales là-bas, parce que c'était beau.
Oui, c'est toujours très très beau les chorales africaines.
Ouais.
Et après, donc vous revenez à Montpellier, et là vous êtes pédiatre. Vous êtes toujours sur la séropositivité ?
Oui, alors quand je suis arrivée à Montpellier, il a fallu que je refasse tout mon cursus, parce que les 20 années que j'avais passées en Afrique ne comptaient absolument pour rien. Et personne n'a vraiment voulu connaître mon expérience parmi mes collègues, etc.
Ouais.
Heureusement, j'ai rencontré des patrons, par contre, des patrons hospitaliers, en particulier le professeur Astruc, le professeur Rennes, qui ont compris que mon expérience pouvait avoir une valeur à l'hôpital.
Ouais.
Et donc, ils m'ont confié une consultation, disons, d'enfants venant de l'étranger.
Ah oui.
Donc, j'avais des familles de personnes immigrées récemment ou des enfants adoptés venant de l'adoption internationale. Et j'ai développé là, tout ce que je connaissais déjà en Afrique et je faisais des bilans et des conseils pour des pathologies telles que la drépanocytose, qui est une maladie génétique très répandue en Afrique,
et puis
évidemment le VIH-Sida, parce que j'avais vu, je crois à moi seule, plus d'enfants atteints du Sida que tous les pédiatres de France réunis.
Bien sûr, bien sûr.
Voilà.
Et vous reprenez en même temps des études de théologie. Enfin, vous commencez des études de théologie.
Non, ça va, ça c'est pas dans cet ordre-là. Je suis arrivée à l'hôpital dans les années 90 et Le pasteur aumônier, qui était à ce moment-là, je crois, Karl Bester, puis ensuite Claude Devin, avait besoin de personnes pour étoffer la commission d'aumônerie hospitalière. Ouais. À l'époque, c'était, je crois, Vincent Fauchère qui était le président de cette commission. En tout cas, il en faisait partie. Et puis, il y avait aussi Jacques Touchon qui a été président de cette commission pendant un moment. Donc, moi, je suis rentrée dans cette commission en tant que membre, tout simplement. Ouais.
Pour soulager la souffrance, parce que ça ne vous suffisait pas d'être médecin, de soulager la souffrance de ce côté-là. Vous aviez besoin aussi d'apporter autre chose.
Oui, j'ai toujours pensé que la maladie, c'était un tout et qu'il y avait toujours une composante de souffrance psychologique et aussi de souffrance spirituelle. Surtout dans le cas des enfants qui étaient atteints du sida, qui mouraient, les parents mouraient aussi, donc il y avait des accompagnements vers la mort à faire. Ouais. Et là, c'est le moment où se pose quand même un certain nombre de questions du sens de sa vie et de ce qui nous attend après la vie. Donc, l'Église protestante elle-même ne répondait pas trop à ce genre de questions. Ça ne l'intéressait pas vraiment. Ouais. Et c'est dans la commission d'aumônerie que j'ai trouvé des personnes qui pouvaient se poser ce type de questions, hein, puisqu'elles écoutaient,
bien
les
sûr,
visiteurs écoutaient, et moi-même j'en avais besoin de travailler ces côtés-là. Donc c'est pas seulement encore une fois donné, mais j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup reçu de ce travail. Et c'était une façon de continuer les engagements que j'avais toujours eus dans l'Église. Dans les églises que j'avais fréquentées.
Et vous étudiez l'éthique avec Jean-Daniel Causse.
Alors, c'est là où, avec la commission d'aumônerie, je me suis dit, là, j'ai quand même besoin de compléments à tout le travail que j'avais fait un petit peu en autodidacte.
Hein, oui.
Pour former des moniteurs d'école biblique, il fallait forcément que j'aie aussi des notions de théologie, mais je l'avais fait... par correspondance, on dirait, et en lisant beaucoup.
Qu'est-ce qu'on étudie en éthique ?
Alors, en éthique, eh bien, on étudie d'abord les grands éthiciens, laïcs et les philosophes,
etc. Mais qu'est-ce que c'est qu'un éthicien ? Pour les gens qui ne connaissent pas ce que ça veut dire, l'éthique ?
Alors, l'éthique, c'est un mot qui a remplacé le mot moral.
Oui.
Bon. À l'époque de mes grands-parents, on ne se posait pas de questions d'éthique, on parlait de morale, tout simplement, c'est-à-dire l'étude des mœurs.
Ouais. Hein,
la morale, c'est l'étude des mœurs.
Ouais.
Ce n'est pas seulement des recommandations, ça c'est le bien et ça c'est le mal, c'est l'étude des mœurs. Donc il y a eu beaucoup de philosophes qui s'en sont emparés, et avec Jean-Daniel, j'ai lu un peu plus approfondissement. De façon approfondie, Nietzsche, Sartre, tous Simone de Beauvoir, etc. Bon, et puis bien sûr les éthiciens protestants.
Ouais.
Alors, je pense que le mot éthique a remplacé le mot moral, parce que dans le protestantisme, on refuse justement cette idée d'une loi qui vous contraindrait à faire le bien et pas faire le mal, etc. On est toujours dans la recherche. Du meilleur bien ou plutôt du moindre mal.
Oui.
On sait très bien que le mal et le bien ont partie liée et que c'est très difficile à discerner et que donc l'éthique, c'est la démarche qui vous fait discerner ce qui est bien aujourd'hui, maintenant, ici et maintenant.
C'est ça.
Voilà.
Oui.
Sans obéir à une loi naturelle qui viendrait d'en haut. Ce qui contraste avec la plupart des autres religions.
Oui, tout à fait, hein. Complètement.
Donc, c'est une démarche, moi, qui m'intéressait beaucoup, en particulier, justement, pour savoir comment accompagner mes patients, comment pouvoir les faire déboucher sur une réflexion personnelle à propos de leurs questions existentielles. Et ça m'a ouvert. J'aimais beaucoup l'enseignement de Jean-Daniel.
Oui.
C'était un professeur... très très ouvert et très très sympathique, très naturel, qui avait une relation avec ses élèves, que j'aimais beaucoup. Et c'est là où j'ai commencé à faire à cause de cet enseignement, j'ai écrit mon premier livre
au jardin des oliviers.
Non, c'est pas celui-là.
Ah
bah non, celui-là c'est le dernier. J'en ai écrit 12, donc
Alors, alors, dites-moi le premier que vous avez
alors,
écrit.
Le tout premier, c'est un livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Frémissement de l'aube, qui est une réflexion sur la santé, la maladie, la mort, que j'ai entreprise après une émission de radio.
D'accord.
AFM+. Et je ne sais plus comment s'appelaient ces émissions-là. C'était...
On peut les trouver en tapant sur la barre de recherche.
Oui,
vous tapez
oui.
Joël Randeger, R-A-N-D-E-2-G-E-R, et vous trouverez tous les livres, toutes les émissions qui parlent des livres.
Voilà, alors, Frémissement de l'aube, j'ai poursuivi la réflexion que j'avais faite pour cette émission. Et ce livre, je l'ai montré à plusieurs personnes, enfin le manuscrit, et on m'a dit, il faut absolument que tu le publies. Mais moi, j'avais l'idée, comme c'était un livre de méditation, en quelque sorte, sur une semaine, j'avais envie de l'illustrer. J'étais déjà dans cette idée d'art et qui m'a toujours passionnée.
Oui,
et j'ai demandé à Henri Lindegaard, de voir s'il n'avait pas des dessins à me proposer.
Et c'est un pasteur qui fait des dessins. Hein,
qui est un artiste, artiste complet. D'ailleurs, il y a une exposition aujourd'hui encore à sa mémoire. Il a fait... Et je ne connaissais que ses dessins en noir et blanc, en particulier ce qui est sur les psaumes qu'il avait publiés. Mais il m'a montré une mine d'aquarelles, toutes plus belles les unes que les autres, et il m'en a offert 8. Pour les publier dans ce livre. Voilà.
D'accord, alors on va parler d'art, mais avant on va faire une pause musicale. Vous nous avez choisi Back to Africa, qu'on va écouter maintenant.
Mama, yo, 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 Telibala, le saule, kore, manya.
Sankanda, yeah.
retrouve avec Joël Nicolas Rendegeur, donc médecin, et à la retraite, donc vous voulez transmettre tout ce que vous avez vécu, tout votre, toutes vos recherches, tous vos sentiments.
Surtout les avancées que j'avais vécues dans les dernières années de mon travail sur les traitements, sur la transmission du sida de la mère à l'enfant, par exemple, qui combattent cette transmission, et sur les traitements des enfants. Et donc, grâce à une association avec laquelle j'avais noué des liens déjà quand j'étais en Afrique et que j'avais continué à fréquenter pendant toutes mes années Montpellier-Rennes, j'ai accompli un certain nombre de missions à Madagascar et surtout au Burkina Faso, où j'ai débuté une recherche thérapeutique sur une cohorte d'enfants et surtout soutenu une association locale qui s'appelle A Espoir pour Demain, qui avait pour but d'améliorer la prise en charge psychosociale des familles concernées par le VIH-Sida. Et là, avec un grand nombre d'amis rencontrés au cours de ma route assez longue déjà, j'ai organisé un parrainage d'enfants séropositifs à Bobo-Dioulasso. Nous avons parrainé, ce parrainage a duré pendant 20 ans, nous avons parrainé à peu près une soixantaine d'enfants et nous les avons amenés jusqu'à l'âge adulte, alors que sans traitement et sans éducation, ils mourraient tous avant l'âge de 12 ans.
D'accord.
Donc là, c'est une belle réussite, je trouve, que j'ai faite avec toute cette équipe de parrains et marraines qui m'ont entourée pendant tout ce temps-là.
Et vous avez toujours contact avec certains de ces enfants qui sont devenus...
Oui, tout à fait. Alors, on a arrêté le parrainage cette année, en 2024, par contre.
Oui.
En 2024, parce qu'ils étaient tous devenus adultes, ils avaient un travail, ils étaient parents. Certains étaient décédés, malheureusement, d'autres choses, mais ce que nous avons soutenu, bien sûr, nous sommes en contact avec eux, surtout avec la responsable de l'association qui s'appelle Christine Cafando, qui est venue d'ailleurs ici pour faire une émission lors d'un dernier passage en France.
D'accord. Et donc, vous avez... Alors, on revient sur l'art, puisque vous avez parlé donc de votre livre illustré. Vous avez un hobby, vous faites des icônes. Alors, c'est curieux, ça, pour une protestante, de faire des icônes. Moi, les icônes, je connais ça dans les milieux orthodoxes. J'en ai même ramené des icônes de Crète. Donc, on voit pas tellement une protestante faire des icônes. Alors, vous allez nous expliquer.
Voilà. Ma grand-mère maternelle était directrice d'école maternelle et elle était en même temps peintre et elle m'a appris le dessin, la peinture, etc., que j'ai essayé de développer pendant toute ma vie, mais à vrai dire, j'avais pas le temps. J'avais pas le temps parce que entre une famille de 4 enfants, un métier, des engagements à l'église et ailleurs, c'était pas possible.
Bien sûr.
Donc, je m'étais promis au moment de ma retraite de développer ce talent que je pouvais avoir. Je dessinais bien, j'aimais bien les couleurs, etc. Mais je n'avais pas envie de faire des tableaux, ni tableaux contemporains qui n'ont aucun sens, pour moi, sauf de décrire l'angoisse de notre temps, ni des paysages et des choses... ça ne me disait rien. Donc j'ai cherché à nouer en même temps mon désir de peindre et puis ma foi.
Ouais.
Et comme le protestantisme ne m'offrait rien dans ce domaine, Henri. Mais Henri n'a pas fait des tableaux religieux.
Oui.
Il a fait des tableaux, des très très beaux tableaux. Si, avec la Bible des contrastes.
Oui.
Mais c'était pas ça. Moi, j'aime trop la couleur, j'aime pas trop le noir et ça ne me... Bon. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Eh bien, la peinture byzantine et russe, ancienne, pas tellement moderne, parce qu'il y a beaucoup de kitsch, il y a beaucoup de choses que je n'aime pas du tout. Et je n'aime pas trop la théologie orthodoxe.
Oui, oui.
Mais je trouve que leur art, l'art byzantin, en plus... En Tunisie, j'avais été fascinée par les mosaïques du musée du Bardot, mais il y avait des mosaïques qui traînaient par terre, même dans la cour du collège hein, où on était. Ouais. Donc, cet art de la mosaïque, il a été très, très développé par les Byzantins, en même temps que l'art des icônes.
Ouais.
Et donc, je me suis lancée dans les icônes et dans la mosaïque.
Et alors, qu'est-ce que ça ajoute à votre spiritualité? Ou est-ce que ça n'ajoute rien du tout, que c'est purement artistique?
Alors, on travaille toujours en groupe, hein. On est dans un atelier. Ouais. Au départ, j'étais dans un atelier avec un maître, qui est Anya Pinkovitch, qui m'a tout appris et qui est d'origine ukrainienne. Donc, c'était plutôt des icônes russes, très transparentes, très avec une technique plutôt aquarellée que compacte, comme font les Grecs. Donc, toutes ces couleurs et puis ces corps illuminé, transfiguré, ça me changeait tellement des corps malades.
Ah oui.
Voilà, des corps abîmés, des corps mourants. Là, on les voyait comme dans le royaume des cieux. Ouais. Ils sont représentés d'ailleurs comme dans le royaume des cieux. Et cette lumière et ces couleurs me faisaient un bien fou sur le plan psychologique et sur le plan spirituel. Je le faisais pas pour prier devant,
c'était pas ça.
Oui. J'ai fait ce travail pour témoigner de l'Évangile d'une autre façon que par l'écrit.
Ouais.
En fait, l'écrit, ce sont des symboles et les icônes, c'est aussi un langage symbolique. C'est un autre langage, mais qui a tout autant de valeur que le langage écrit pour moi.
Oui, oui, oui.
Et aujourd'hui, l'image est partout. L'image est absolument partout. Et oui. Ce sont souvent des images d'horreur, de violence, de choc. Ça me rappelait les crados, là, c'était des cartes que les enfants se distribuaient dans la cour de récréation. Elles étaient toutes plus laides les unes que les autres. Et les enfants s'en délectaient. Et je me suis dit, je veux faire de belles images.
Ouais.
Des images qui ont du sens. Mmh. Des images qui portent à la méditation, qui porte à la lecture de la Bible, qui porte à la prière aussi, parce que ce sont des scènes bibliques que je représente, et ce sont des symboles aussi que l'on retrouve, par exemple, dans l'Apocalypse. L'Apocalypse est un livre d'images, c'est pas...
Tout à fait,
voilà.
Tout
donc,
à fait.
J'ai donc travaillé dans l'atelier de Dania, qui est restée une amie très chère. Et ensuite, Dania, malheureusement, est tombée malade et on n'a pas pu continuer les ateliers avec elle. Donc, j'ai créé mon propre atelier avec les amis qui avaient travaillé avec moi chez elle. Et j'en ai recruté d'autres qui avaient d'autres méthodes aussi de travail, qui avaient appris avec plutôt des Byzantins et des Grecs. Puis, 12 ans maintenant, nous avons un atelier à Jakou, au centre écuménique de Jakou, qui s'appelle l'atelier d'art liturgique. On se réunit une fois par mois, le deuxième jeudi du mois, toute la journée, et on peint ensemble.
Et vous faites des expositions?
Alors, on a fait plusieurs expositions.
Mais est-ce que vous pouvez nous donner s'il y a une exposition qui est...
Elle n'est pas prévue encore, mais elle le sera. On en a fait une il n'y a pas très très longtemps à Jakou, en octobre 2023, et on va en préparer une probablement pour l'année 2025.
Eh bien, on en parlera, vous nous donnerez le renseignement et puis on le diffusera. Alors, je vous remercie, Joël. On n'a pas pu parler de tout, je suis désolée, le temps nous manque. Alors, merci à nos auditeurs. Merci à Émile qui fait la technique, qui est à la réalisation ce matin. Et à la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir.
Un protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.